un jour nouveau pour t'aider à vivre une vie chrétienne comblée et victorieuse. Fort de toutes les promesses divines, un jour nouveau t'enseigne à mettre en pratique les principes bibliques qui te permettront de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Animé par Esther Ntoto et présenté par Camille Toto, une production de Light of Africa Network.
Un jour nouveau sous les antennes de ta radio préférée. Un jour nouveau. Ton expérience personnelle avec Dieu. Chapitre 7. La crise de croyance. Émission 31. Un moment décisif de changement. Écrivant à l'église des Philippiens, Paul dit ceci: je veux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Peux-tu toi aussi dire cela? Si Dieu te demandait de faire quelque chose que tu ne peux pas faire de toi-même, aurais-tu assez de foi pour croire que Dieu va te donner la force et la capacité de faire ce qu'il attend de toi? Ou alors renoncerais-tu avant de commencer? Aujourd'hui, nous débuterons une semaine d'études sur la crise de croyance. Si tu veux réellement connaître et accomplir la volonté de Dieu, sûrement tu te trouveras dans une crise pareille. Alors, rapproche ta Bible, j'espère que tu seras édifié aujourd'hui.
Il y a 6 semaines que nous avons commencé cette série d'émissions intitulée « Ton expérience personnelle avec Dieu ». Chaque semaine, nous avons étudié une des 7 réalités par étape. Pour ceux qui écoutent ces émissions régulièrement, je voudrais réviser brièvement ce que nous avons appris durant ces 6 semaines qui viennent de s'écouler. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, cette révision vous permettra de vous mettre à jour et de savoir à quel niveau nous sommes dans la série de nos émissions. La première réalité que nous avons étudiée était que Dieu est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Il œuvre là où tu es. Que ce soit dans ta ville ou dans ton village, dans ton école ou sur le lieu de travail. Il œuvre même dans ton voisinage, dans ton église, et peut-être même dans ton gouvernement. Au début de l'histoire, Dieu a choisi d'accomplir son œuvre à travers des gens tout à fait ordinaires, des gens comme toi et moi. Puis nous avons passé une semaine à parler de la relation intime que Dieu veut entretenir avec chacun d'entre nous. Nous avons dit que c'est Dieu qui prend l'initiative. Nous ne cherchons pas Dieu, mais c'est lui qui nous cherche. Quand cette relation intime est établie, cela constitue pour nous une invitation à rejoindre Dieu dans son œuvre. Notre tâche est d'observer là où Dieu est à l'œuvre et de prier que le Saint-Esprit nous révèle là où Dieu veut que nous œuvrions avec ce qu'il est déjà en train de faire. Le Seigneur bénira ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements qu'il vous prescrit et qu'il vous communique de sa part, que ceci soit pour vous un jour nouveau. Pour les 2 dernières semaines, nous avons ensemble examiné beaucoup plus de voies par lesquelles Dieu nous parle en utilisant ou en le faisant à travers le Saint-Esprit. Quand il parle, il se révèle et il manifeste ses intentions et ses méthodes d'action. Il ne peut nous demander d'œuvrer pour lui sans nous aider à comprendre ses intentions. Nous avons appris que Dieu parle à travers le Saint-Esprit et à travers la Bible. Il nous parle à travers la prière ainsi qu'à travers les circonstances. Celles-ci peuvent être heureuses tout comme elles peuvent être malheureuses. La cinquième étape d'apprentissage et d'accomplissement de la volonté de Dieu fera l'objet de notre étude de cette semaine. Lorsque Dieu te révèle ce qu'il veut accomplir à travers toi, il arrivera que tu passes par des moments de crise de croyance. Le mot « crise » vient du mot grec qui signifie « discussion ». Pourquoi devons-nous rencontrer une crise? Pourquoi devons-nous expérimenter un moment de crise? Eh bien, quand Dieu t'invite à le rejoindre dans son œuvre, il a une tâche grandiose pour toi. C'est une tâche que tu ne peux accomplir sans l'aide de Dieu, sinon tu es voué à l'échec. Ceci est le point où beaucoup de gens décident de ne pas suivre ce qu'ils pressentent être la volonté de Dieu. C'est à ce niveau que beaucoup hésitent d'accomplir ce qu'ils pressentent que Dieu les mène à faire. La crise de croyance est un point où tu dois prendre une décision et aller dans telle ou telle autre direction. Tu dois prendre une décision. Tu dois décider de ta position face à Dieu. La façon dont tu réagiras à ce moment déterminera la suite. Soit tu acceptes d'être impliqué dans l'œuvre de Dieu, ou tu continueras de marcher dans ta propre voie et ainsi tu vas rater ce que Dieu a prévu pour ta vie. La façon dont tu vis quotidiennement est un témoin de ce que tu penses de Dieu. Il y a beaucoup d'incidents dans la Bible où les individus étaient confrontés aux tâches impossibles. Ils sont tous passés par une crise de croyance. Mais quand ils se sont fiés à Dieu en acceptant qu'il œuvre à travers eux, des choses merveilleuses se sont produites. Ouvre ta Bible, par exemple, dans le livre de Josué, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Nous allons aller dans le chapitre 6 et lire les versets 1 à 5. Après 40 ans de voyage dans le désert, Dieu a permis aux Israélites de traverser le Jourdain et d'entrer dans la terre promise. Leur premier obstacle était de conquérir la cité de Jéricho, qui était entourée d'un mur. Lisons ensemble les instructions que le chef de l'armée du Seigneur a reçues de Dieu, et cela se trouve, comme je le disais, dans le livre de Josué, au chapitre 6, versets 1 à 5. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murs de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Si tu étais à la place de Josué, serais-tu en mesure de dire à ton armée de contourner la cité pendant 6 jours pour que les murs s'écroulent après la sonnette des trompettes? En fait, cela était une crise de croyance pour Josué et tout Israël. Il devait décider s'il croyait en ce que Dieu avait promis d'accomplir. Bien que les Israélites eussent vu Dieu séparer les eaux du Jourdain pour qu'ils traversent jusqu'à la terre promise, cette étape exigea beaucoup de foi. En effet, chaque tâche que Dieu a donnée à Israël exigeait une nouvelle mesure de foi. Bien sûr, nous savons maintenant que Dieu a fait cette inhabituelle demande afin que les Israélites ne puissent pas se vanter d'avoir conquis Jéricho de leur propre force. Dieu voulait qu'Israël, aussi bien que les Madianites, sache que c'était Dieu qui avait donné aux Israélites ce pouvoir.
Le Seigneur bénira ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements qu'il vous prescrit et qu'il vous communique de sa part, que ceci soit pour vous un jour nouveau.
Maintenant, allons dans le livre de Juges, toujours dans l'Ancien Testament, au chapitre 7, et lisons les versets 1 à 8. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que le peuple choisi de Dieu était entré dans la terre promise et l'avait conquise. Mais il n'y avait pas de paix dans le pays. Pendant 7 ans, les Madianites et les autres peuples de l'Est opprimaient les Israélites. Alors Dieu est venu vers un homme ordinaire, un fermier appelé Gédéon. Il lui a demandé de diriger Israël comme un puissant guerrier. Comme tu peux l'imaginer, le jeune homme s'est trouvé face à une crise de croyance. Mais il était déterminé à connaître et à accomplir la volonté de Dieu. Gédéon a passé la première épreuve de foi, et cela en démolissant l'autel de Baal qui appartenait à son père. Alors l'Esprit du Seigneur est encore apparu à Gédéon pour le préparer à une bataille contre les Madianites. Gédéon assembla 32 000 soldats, mais le Seigneur mit en épreuve la foi de Gédéon encore une fois. Lisons dans le livre de Juges, chapitre 7, versets 1 à 8. Tôt le matin, Gédéon dit Yérubaal, se mit en route avec ses troupes et ils allèrent camper près de la source de Harod. Le camp madianite se trouvait plus au nord, dans la plaine du côté de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. » Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes. Que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent et il en resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon, « Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne le doit pas. » Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent, puis le Seigneur lui dit, « Ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouilleront pour boire. » Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et la laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, « Avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres, qu'ils retournent tous chez eux. » Gédéon retint avec lui les 300 hommes et renvoya les autres Israélites chez eux. Mais l'on garda les provisions et les trompettes des partants. Le camp des Madianites se trouvait plus bas dans la plaine. Gédéon doit avoir lutté avec sa conscience. Est-ce que Dieu voulait réellement qu'il combatte contre l'armée des Madianites et des Amalécites avec 300 hommes seulement? Aurais-tu accepté de combattre dans des circonstances pareilles? Il suffit de considérer ce que Dieu envisageait de faire. Quand la bataille fut gagnée, chacun sut sans l'ombre d'un doute que la victoire revenait à Dieu.
Tu es à l'écoute de ton émission préférée, Un jour nouveau. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un jour nouveau sur ta fréquence préférée.
Voyons l'exemple de David, le berger qui devint roi d'Israël. Nous trouvons cela dans le livre de Chroniques, le premier livre de Chroniques, chapitre 14, versets 8 à 16. Les Philistins apprirent que David avait été consacré roi de l'ensemble d'Israël. Alors ils se mirent tous en campagne pour s'emparer de lui. David en fut informé et marcha à leur rencontre. Les Philistins arrivèrent et ravagèrent la vallée des Raphaïtes. David consulta Dieu. « Dois-je aller attaquer les Philistins ? » demanda-t-il. « Les livreras-tu en mon pouvoir ?»« Va les attaquer, » répondit le Seigneur. « Je te les livrerai. » Les Philistins s'avancèrent jusqu'à Baal-Perassim où David les battit. David déclara, « Par ma main, Dieu a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis comme un torrent dans une digue. » De là vient le nom donné à cet endroit, Baal-Perassim, ce qui signifie le maître des brèches. Les Philistins, en fuyant, avaient abandonné sur place les statues de leur dieu. David ordonna qu'on les brûle. Les Philistins recommencèrent à ravager la vallée des Raphaïtes. David consulta de nouveau Dieu et lui dit, « Ne les attaque pas par derrière. Fais un détour à bonne distance et approche-toi d'eux aux abords de la forêt des Micocouliers. Lorsque tu entendras un bruit de pas à la cime des arbres, lance une attaque, car c'est à ce moment-là que je me serai avancé devant toi pour battre l'armée philistine. » David agit selon les ordres du Seigneur. Les Israélites purent ainsi battre les Philistins et les poursuivre de Gabaon à Gézer. David était un serviteur fidèle du Seigneur. Il refusa d'être guidé par la sagesse humaine. Au contraire, il demanda que Dieu puisse le guider. Dieu lui a promis qu'il l'aiderait à vaincre les Philistins. S'agissait-il ici d'une crise de croyance? Certainement. Dans cette situation, David devait décider de sa position envers Dieu. Il devait avoir confiance en Dieu et croire qu'il tiendrait sa promesse. Il est important de noter que David restait en relation intime, personnelle, continuelle avec Dieu. Il ne comptait pas sur la direction des autres comme le feraient certaines personnes aujourd'hui. Ceci est un formidable exemple de la manière dont Dieu veut que tu fasses confiance à ses directives, de la manière dont il veut que tu mettes ta confiance entière en lui seul et non pas en quelques méthodes ou quelques émissions. Ce qui a marché hier dans quelque autre église peut ne pas être ce que Dieu veut que tu utilises aujourd'hui. Il est le seul à avoir le droit de te dire ce qu'il faut faire. Enfin, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 17, versets 24 à 27. Jésus était souvent critiqué par les pharisiens et autres personnes pour sa façon d'agir. Ceci provoquait une crise de croyance chez quelques-uns de ses disciples. Écoute pendant que je lis. Nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27. Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum, les percepteurs d'impôts du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent : « Votre maître, ne paye-t-il pas l'impôt du temple ?»«
Si, répondit Pierre, il le paye. »
Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit, « Qu'en penses-tu, Simon ? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde ? Les citoyens de leur pays ou les étrangers ?»«
Les étrangers, » répondit Pierre.
« Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. »
Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paye-leur notre impôt. En tant que pêcheur, de carrière, de profession, Pierre n'avait jamais trouvé de pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson auparavant. Attraper un poisson en vue de trouver le montant nécessaire pour payer la taxe était une épreuve de beaucoup de foi. Pierre a réagi selon sa foi et Dieu a exaucé. Avant de conclure notre étude d'aujourd'hui sur la crise de croyance, je voudrais te rappeler les quatre principes à ne pas oublier lorsque tu te trouves face à une situation de crise de croyance. Premièrement, les rencontres avec Dieu exigent toujours la foi. Il n'y a là aucune exception. Deuxièmement, les rencontres avec Dieu sont magnifiques. Elles sortent de l'ordinaire. Troisièmement, ce que tu fais en réponse à l'invitation de Dieu révèle ce que tu penses au sujet de Dieu. Quatrièmement, ce sont les actes qui montrent que quelqu'un a une foi véritable. Je reprends donc ces quatre vérités, ces quatre réalités ou quatre principes. Premièrement, les rencontres avec Dieu exigent toujours la foi. Deuxièmement, les rencontres avec Dieu sont magnifiques. Troisièmement, ce que tu fais en réponse à l'invitation de Dieu révèle ce que tu penses au sujet de Dieu. Quatrièmement, ce sont les actes qui montrent que quelqu'un a une foi véritable. Pour le reste de cette semaine, nous allons étudier chacun des principes pour que tu t'y réfères lorsque tu feras personnellement face à une crise de croyance ou une crise de foi. Avant que je ne te quitte aujourd'hui, je voudrais partager avec toi ce verset biblique à mémoriser pour cette semaine. Il se trouve dans le 11e chapitre du livre d'Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament. Et voilà ce qu'il dit. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je t'encourage à mettre un signe sur ce verset dans ta Bible et essayer de l'apprendre tout le long de la semaine. Le titre de notre prochaine leçon sera « Les rencontres avec Dieu exigent la foi ». Merci une fois de plus d'avoir suivi cette émission. Nous osons croire qu'elle vous a été bénéfique et pour toi qui suis de manière continuelle, nous osons croire que ta vie est en train de changer, que tu crois dans ta relation personnelle avec Dieu et que tu le connais davantage. Nous prions aussi que cette croissance spirituelle pourra permettre à d'autres personnes d'expérimenter Dieu à d'autres niveaux. Puisses-tu être béni et nous nous retrouvons donc prochainement pour la suite de nos émissions. Que Dieu vous bénisse.
Je vous rappelle que vous venez de suivre le chapitre 7, la crise de croyance. L'émission 31, un moment décisif de changement. Avant de nous quitter, laissez-moi vous rappeler que le verset biblique à mémoriser pour cette semaine se trouve dans le 11e chapitre du livre des Hébreux, au 6e verset. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Je t'encourage à mettre un signe sur ce verset dans ta Bible et essayer de l'apprendre tout le long de la semaine. Merci de nous avoir écoutés pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement sur la même chaîne à la même heure. Au revoir. Auditrice, auditeur, merci de nous avoir suivis. Si tu as une question, une action de grâce, un sujet de prière ou encore un témoignage, n'hésite pas à nous contacter au numéro suivant 099 711 98 20. Je répète, 099 711 98 20. Ou encore par courrier électronique camille@helloafrica.net. Ou encore info@unjournouveau.org. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site internet www.unjournouveau.org. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ceci est pour toi, un jour nouveau.